Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi de mai 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous présenterons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Les États-Unis n'ont pas de place dans le Golfe Persique. Les pays de la région sont capables d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité, a ponctué le général Tang Siri, commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Six roquettes sont tombées dimanche 1er mai sans faire de victimes dans une zone de la province d'Erbil, dans la région du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, et au moins 22 terroristes Boko Haram ont été abattus par la force multinationale mixte dans la région du lac Tchad. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un commandant iranien a déclaré dimanche 1er mai que les États-Unis n'avaient pas de place dans le golfe Persique, car les pays de la région étaient capables d'assurer leur propre sécurité. Ces remarques ont été faites par Alireza Taksiri, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a également averti que tout pays cherchant à compromettre les intérêts de l'Iran dans le golfe Persique ferait face à des réponses écrasantes et douloureuses de la part de l'Iran. L'Iran a transmis à plusieurs reprises des messages de paix et d'amitié à ses voisins du Sud, soulignant que la région était capable de garantir sa sécurité, a indiqué le commandant Alireza Taksiri. La marine du CGRI est constamment, activement et efficacement présente dans tout le détroit d'Hormuz et dans la partie nord du golfe Persique. Compte tenu de sa totale domination en matière de renseignement, elle surveille en outre tous les mouvements dans la région, a noté le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Le président iranien Ebrahim Raisi a invité son homologue tadjik, Emomali Rahmon, à se rendre en Iran. Au cours d'une conversation téléphonique, M. Raisi a félicité M. Rahmon pour la prochaine Eid al-Fitr et a déclaré que la République islamique d'Iran estime que la sécurité et la prospérité du peuple tadjik sont la sécurité et la prospérité du peuple iranien. L'Iran est préoccupé par la situation sécuritaire dans la région, en particulier en Afghanistan, a déclaré M. Raisi, soulignant la nécessité de développer la coordination sécuritaire entre les deux pays. M. Raisi a également exprimé sa satisfaction quant au développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays, affirmant que la visite du président du Tadjikistan à Téhéran conduira à un développement ultérieur des interactions bilatérales et interrégionales entre Téhéran et Dushanbe. Les ministres iraniens et syriens des Affaires étrangères se sont entretenus lors d'une conversation téléphonique des questions d'intérêt commun. Le ministre iranien Hossein Amir Abdollahian et syrien Faisal Mirdad ont discuté de la commémoration de la journée mondiale de Al-Quds en Syrie, en Iran et dans les différents pays du monde et du plan soutien de leur pays à la résistance du peuple palestinien face aux agressions criminelles israéliennes contre l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, soulignant les positions fermes des deux pays envers le peuple palestinien M. Mirdad a affirmé que les relations stratégiques entre la Syrie et l'Iran vont toujours vers plus de développement, soulignant la nécessité d'activer la coopération économique entre les deux pays pour faire face aux répercussions des mesures économiques coercitives occidentales illégales et inhumaines imposées aux peuples des deux pays. De son côté, M. Amir Abdullahian a évoqué la profondeur des relations entre la Syrie et l'Iran et les efforts continus pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, réitérant le soutien de son pays à la Syrie et à son peuple. Il a exprimé la disposition de l'Iran à fournir tout ce qui est possible pour surmonter les impacts négatifs des mesures coercitives unilatérales. Une bourse anti-sanctions irano-syrienne voit le jour. En automne, le directeur de la bourse a fait part du lancement d'une plateforme d'échange conjointe Iran-Syrie. Le conseiller du directeur de l'Organisation iranienne de bourse pour les affaires internationales, Bahadur Bijani, a déclaré qu'un bureau de coordination des activités au marché des capitaux de l'Iran avait été inauguré en Syrie. Les activités liées à la bourse de commerce au niveau international sont coordonnées dans ce bureau qui fournit également des services nécessaires à tous les organes du marché des capitaux et de l'organisation de bourse en Syrie, a dit M. Bahadur Bijani, ajoutant que des propositions relatives à la bourse de marchandises avaient déjà été remises aux responsables syriens concernés. Nous nous attendons à ce que la partie syrienne annonce son avis final à ce propos pour que nous puissions passer à une nouvelle étape de coopération. M. Bijani a souligné que la bourse de commerce de l'Iran était totalement prête à fonder une bourse de marchandises en Syrie et à former une plateforme conjointe avec la Syrie dans le domaine de cette bourse. Une coopération entre les bourses de marchandises de l'Iran et de la Syrie contribue à faciliter les échanges de marchandises d'une manière systématique, a-t-il dit. Évoquant les problèmes liés au transfert de devises sur la plateforme en raison des sanctions, M. Bijani a déclaré « Dans cette plateforme de commerce conjointe, les échanges de biens entre les parties se dérouleront par les contrats de troc ». Six roquettes sont tombées dimanche 1er mai sans faire de victimes dans une zone de la province d'Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, a déclaré le service de lutte contre le terrorisme de la région dans un communiqué. Les roquettes ont été tirées depuis Al-Hamdaniya, une ville située à 60 km à l'ouest de la ville d'Erbil, et ont atterri près de la rivière Al-Zab, à la périphérie de la ville kurde de Khabat, indique le communiqué de ce service. Aucun groupe ou individu n'a encore revendiqué l'attaque. Le 6 avril, trois roquettes avaient été déjà tirées depuis la région d'Al-Hamdaniya et avaient touché une zone habitée proche d'une installation pétrolière dans la zone de Khabat. Elles n'avaient pas non plus fait de victimes. Les FTS ont kidnappé un certain nombre de civils de la ville de Raqqa pour les forcer à combattre dans leur rang. Des sources locales ont révélé à Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les FTS avaient pris d'assaut un certain nombre de maisons dans le quartier d'Al-Mujama, dans la ville de Raqqa, et dans la ferme de Huzaïma, au nord, et kidnappé 6 civils, dont 4 jeunes, et les ont emmenés vers l'un de ces camps d'entraînement pour les forcer à combattre dans leur rang. Au moins 22 terroristes du groupe extrémiste Boko Haram ont été tués lors d'une récente opération lancée en bordure du lac Tchad par des troupes de la force multinationale mixte FMM, a déclaré un porte-parole de cette force dans une déclaration. Les troupes de cette force conjointe régionale avaient attaqué plusieurs bastions de Boko Haram au cours d'une opération de nettoyage près de Tumbun Rago, une ville au bord du lac Tchad, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, indique le porte-parole de la force multinationale mixte. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait part dimanche soir à Dakar de son souhait de voir s'instaurer dans les délais les plus brefs l'ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Pour ce faire, il est important de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays, a ajouté M. Guterres, qui s'exprimait lors d'un point de presse avec le président sénégalais Macky Sall. Au sujet de la situation sécuritaire au Sahel, qu'il a jugée préoccupante, il s'est engagé à continuer de plaider pour des opérations africaines de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme robustes mises en œuvre par l'Union africaine et appuyées par l'ONU. Il a en outre demandé à l'ensemble de la communauté internationale d'apporter son soutien aux pays ouest-africains afin qu'ils soient à la hauteur des enjeux sécuritaires en s'attaquant à leurs causes profondes sans oublier de s'atteler aux nouvelles occasions de développement. M. Guterres séjourne depuis samedi soir à Dakar. Première étape de sa tournée dans le cadre d'une visite de solidarité pour le Ramadan qui le conduira ensuite au Niger et au Nigeria. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Quelle est la vraie raison de la visite du ministre chinois de la Défense à Téhéran? Que faut-il comprendre à ce récent discours de l'agent israélien Zelensky? Quand interrogé sur l'avenir de l'Ukraine, il a répondu à la presse « L'Ukraine de l'après-guerre ressemblera à Israël. Il y aura des soldats armés dans les cinés, dans les centres de shopping, dans des jardins publics. Tout le monde sera armé, femmes, hommes, et tout le monde prêt tout le temps à défendre la patrie. L'Ukraine ne pourra jamais faire un retour en arrière et se reconstituer comme un pays européen dirigé par les libéraux. Notre modèle à nous sera Israël. » Placé du côté ukrainien, cette assertion choquante signifie ni plus ni moins la fin de l'État-nation orthodoxe et slave ukrainien, la fin du respect du droit international, la milicisation puis la mercenarisation de la population, de façon à ce qu'il y ait une dynamique guerrière permanente aux portes de la Russie, extensible à tout son environnement. Un projet de sionisation que les États-Unis auraient décidé depuis que l'axe de la résistance a enterré le mythe d'invincibilité de l'entité, un certain mai 2021, et au bout seulement de 11 jours de bataille balistique qui est toujours en cours. La guerre Ukraine-Russie est donc avant tout une opposition frontale de Poutine à ce qui est une œuvre de déstabilisation et partant de désintégration de la Russie à long terme. Cette sionisation, les Yankees l'ont tentée aussi au Maghreb, aux portes de l'Algérie, avec un rabat qui s'est entièrement adonné aux sionistes, quitte à se faire littéralement coloniser. Mais en mer de Chine, projette-t-il aussi d'israéliser Taïwan? Depuis février 2022, des rapports identiques à celui-ci sont légion dans la presse occidentale. À Taïwan, la guerre en Ukraine a attisé les craintes d'une invasion par la Chine qui revendique cet archipel démocratique de 24 millions d'habitants. Depuis le début de l'invasion russe, le gouvernement a publié un manuel de survie en temps de guerre et cherche à allonger la durée du service militaire. Mais la population aussi se mobilise et multiplie les formations de premier secours et de défense civile. Pour assurer sa défense, Taïwan compte pourtant sur une armée de 200 000 soldats professionnels. Mais la formation des citoyens reste taboue, selon des sources d'information. Avec ou sans le soutien du gouvernement, ces formations civiles ne devraient pas désemplir. Selon de récents sondages, 70% des Taïwanais se disent prêts à se défendre en cas d'invasion chinoise. À lire entre les lignes, c'est le même modèle de milicisation de la population et de la guerre permanente qui saute aux yeux. La question qui se pose alors est la suivante. Que compte faire la Chine pour y faire face? Va-t-elle s'engager militairement dans la bataille ou fera-t-elle appel à une troisième alternative? Au 66e jour de l'intervention russe en Ukraine, il est clair que les Yankees cherchent à pousser les Russes à faire un périlleux choix entre une guerre conventionnelle à n'en finir et un recours à l'arsenal non conventionnel, une perspective que Poutine n'écarte plus. C'est pour éviter un tel dilemme que la Chine semble se retourner vers l'Iran et la résistance, qu'elle sait être la seule au monde à avoir vaincu le sionisme et à avoir fait comprendre concrètement aux Yankees les limites de leur projet fou. Mais de nombreux analystes continuent encore à s'interroger sur l'arrière-fond de ce déplacement précipité qui cache visiblement d'autres terrains de coopération que les parties ne souhaitent pas médiatiser. Au fait, la Chine est inquiète d'une israélisation de Taïwan et, en dépit de ses investissements à Haïfa, ne veut guère voir une entité sioniste émerger à ses portes, d'autant plus que Taïwan, elle la considère comme son propre territoire. Cette tendance s'est fait montrer juste une semaine après le début de l'intervention russe en Ukraine, quand le ministre chinois des Affaires étrangères s'est fait inviter au Pakistan par l'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan et y a dénoncé la politique israélienne et a défendu le droit de la Palestine à l'indépendance. Cette sortie a coûté à Imran Khan sa place, entre autres choses, et prouvé que la Chine est déterminée à aller jusqu'au bout. C'est en Iran, soit au cœur de l'axe de la résistance, seul parti au monde à s'être érigé contre l'international sioniste et lui faire l'échec, que Pékin cherche désormais à saper le projet d'une île séparatiste érigée comme un autre Israël en Extrême-Orient face à la Chine continentale. Surtout que les Yankees y déploieront tous leurs moyens matériels et financiers, ainsi que toutes leurs armes, comme ils le font en Israël ou en Ukraine, en créditant Taipei d'une hypothétique indépendance politique et d'une invincibilité factice et fabriquée par un système d'information coordonnée visant à faire admettre la donne géopolitique comme une vérité irréfragable et éternelle. La Chine sait que la Russie subira tôt ou tard des attaques de grande ampleur visant son territoire sans qu'il soit possible à Moscou d'utiliser les moyens de la dissuasion nucléaire. Jusqu'ici, l'ultime rempart contre ce scénario. C'est pour prévoir une telle perspective que le ministre chinois de la Défense est venu frapper à la porte de la résistance, toujours ouverte à tous les anti-sionistes du monde.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. En Iran, comme partout dans le monde, la participation massive à la marche de la Journée mondiale de route a été grandiose et épique. Des millions de personnes ont pris part à cette marche pour exprimer leur solidarité et leur soutien à la cause palestinienne. Dans un discours à l'occasion de la Journée mondiale de Rhodes, le leader de la révolution islamique a affirmé que tout signale une nouvelle équation dans le présent et l'avenir de la Palestine. Selon l'Ayatollah Khamenei, aujourd'hui en Palestine, mais aussi dans l'Asie de l'Ouest, une volonté invincible a remplacé, en effet, l'armée invincible des sionistes. Le leader de la révolution islamique a souligné que tous les accords de compromis avec l'entité sioniste, y compris les accords d'Oslo, la solution arabe de deux États, le deal du siècle et tout récemment les tentatives humiliantes de normalisation avec le régime de Tel Aviv étaient vouées à l'échec. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a lui aussi affirmé que la stratégie de l'oubli, de la désespérance et de l'épuisement avait échoué face à la résistance palestinienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur cette marche grandiose de la Journée mondiale de Rhodes et surtout les discours du leader de la révolution islamique et du secrétaire général du Hezbollah libanais. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Discours prononcé à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds, le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyed Hassan Nasrallah a salué les dizaines de milliers de Palestiniens qui se sont rassemblés pour la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa et surtout ceux et celles qui sont restés durant tout le mois de Ramadan pour défendre Al-Aqsa avec leur corps et âme. De même, il a salué tous ceux qui ont participé à la commémoration de cette journée à travers le monde, soit dans 90 pays. Il a également déclaré « Nous saluons les dizaines de milliers de musulmans qui sont sortis dans les villes iraniennes et yéménites ». Depuis la création de l'entité sioniste, ses sponsors, ses maîtres et le mouvement sioniste ont œuvré pour stabiliser, consolider et protéger cette entité et ont travaillé sur de nombreuses voies, y compris celle de l'oubli. Aujourd'hui, à travers les événements des dernières années et de cette année, nous confirmons que le chemin de l'oubli a échoué, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Ils ont œuvré depuis 1948 sur l'option de la désespérance à l'égard de la restauration de Quds et des lieux saints, indique Nasrallah. La trahison officielle à l'encontre de la Palestine et la normalisation visent à désespérer l'humain islamique, a-t-il noté en évoquant les défaites consécutives des régimes arabes. Il a poursuivi « Nous appelons tous les pays et peuples de la région à adresser un message clair à l'ennemi, affirmant que la disparition d'Al-Quds et d'Al-Aqsa signifie la disparition d'Israël. Aujourd'hui, le peuple palestinien est plus optimiste et plus sûr que jamais que la victoire sera réalisée. La question palestinienne fait partie de notre religion, notre foi, notre dignité. Nous sommes une nation qui n'abandonne pas sa religion et sa dignité, a-t-il précisé, avant d'affirmer que la confrontation militaire a prouvé qu'Israël n'est pas un destin à subir et peut être vaincu.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Codabandé. Et bonjour aussi à vos auditeurs et naturellement à Monsieur Luc Michel.
Alors, deux discours importants à l'occasion de la journée mondiale de Quds, celui du leader de la révolution islamique et du secrétaire général du Hezbollah libanais. Mais un point important dans ces deux discours, aujourd'hui, selon le leader de la révolution islamique, alors on assiste à une nouvelle équation dans le présent et l'avenir de la Palestine. Et le secrétaire général du Hezbollah libanais, lui aussi, a affirmé que le Hezbollah, en effet, a été sur le point de renforcer et renforcer naturellement l'équation de dissuasion. Quels sont aujourd'hui, concernant plus précisément la question palestinienne, les caractéristiques de cette nouvelle équation?
Il semble que la confiance en soi, certitude morale, si je puis dire, de la victoire, soit un élément, plus en relief qu'autrefois. Il a toujours existé dans la conscience palestinienne, mais il est avéré par ces manifestations, par leur durée, par leur grandeur et leur énergie constante, que les Palestiniens ne se font aucune illusion quant à une possible coexistence avec l'État d'Israël. En fait, ils savent qu'ils sont destinés, s'ils ne résistent pas, c'est-à-dire s'ils ne tiennent pas bon, s'ils ne résistent pas, ils savent qu'ils seront toujours considérés comme non pas des citoyens, mais des êtres inférieurs, voyez. Et donc, il faut qu'ils conservent en eux, à défaut d'armes puissantes, une conscience, ferme, en leur seule force. Car l'État d'Israël a été créé, donc en 1947, d'abord créé en 1948, mais en 1947 par l'initiative russe de Staline, il faut toujours le dire, en mars 1947 aux Nations Unies. Et donc, l'État d'Israël repose sur deux piliers, un pilier occidental et un pilier oriental. Tant que les dirigeants arabes essaieront de jouer entre les deux, ils perdront. Il ne faut pas se faire d'illusions. Disons, le temps est contre la durée de l'entité sioniste. Vous voyez ? Et je dirais qu'un des passages du discours de M. Nasrallah est quand il dit que le tort de l'administration sioniste est de pousser toujours les choses jusqu'à à mettre en cause la sécurité d'Israël. Il a tout à fait raison. Je crois qu'il sera entendu, qu'il a été entendu, de l'opinion publique israélienne même, voyez-vous. Je crois que celle-ci a de moins en moins confiance dans la durée de cet état artificiel, voyez-vous, qui a été fait dans qui ne date pas d'ailleurs de l'après-guerre, comme on le croit, et qui date bien sûr du cours de la Première Guerre mondiale, voyez. C'est donc une affaire internationale, mais cette affaire internationale se brise. Elle se brise devant la conscience nationale. Je crois que là, M. Nasrallah a parlé non pas seulement en chef de parti, mais il a parlé, disons, en dirigeant spirituel. Il a parlé, je dirais, même en philosophe.
Merci infiniment. Restez avec nous, s'il vous plaît, monsieur le professeur. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, bonjour Walter Dortiguier.
Je vous remercie infiniment d'être en ligne avec nous, monsieur Michel. Monsieur Michel, dans son discours hier, le leader de la révolution islamique a souligné qu'aujourd'hui, en effet, tous les événements survenus, notamment ces dernières années, témoignent de la fin de tous les accords de compromis avec l'entité sioniste, les accords d'Oslo, le deal du siècle, la solution de deux États et tout récemment, ces tentatives de normalisation avec le régime de Tel Aviv. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui concernant la question palestinienne sur le front militaire de la confrontation avec l'entité sioniste, mais aussi au niveau de la prise de conscience internationale?
Ce qui a changé, ce sont que les plans de long étouffement de la question palestinienne développés par les Israéliens et par leurs complices américains ont échoué. Grâce à l'invention, justement, au Liban, en 2006, par l'Iran et le Hezbollah de ce qu'on appelle la guerre hybride, les plans occidentaux ont été défaits. Et l'idée centrale de ce qu'on appelle maintenant l'axe de la résistance, c'est d'avoir rompu l'isolement de la question palestinienne. Aujourd'hui, la question palestinienne est au cœur de la stratégie de l'axe de la résistance. C'est ça qui a changé. Mais ce qui a changé aussi, et Nasrallah le constate, c'est le contexte international. C'est-à-dire que les impérialistes aujourd'hui sont menacés de partout de ce qu'on appelle en langage militaire la retaliation. Vous avez hier la Corée du Nord qui a dit qu'il allait développer ses moyens nucléaires et il visait les Américains et les Sud-Coréens sur la péninsule. Les Russes, par la voix de Lavrov, ont dit qu'une guerre nucléaire menaçait si on continuait à alimenter et à jeter de l'huile sur le feu dans le conflit ukrainien. Et maintenant, Nasrallah avertit les Israéliens qui seront victimes de représailles sérieuses. La crédibilité est venue de diverses choses. Elle est venue, évidemment, du fait que lors de la dernière guerre pour Gaza et la Cisjordanie, les capacités basilistiques de l'axe de la résistance se sont révélées supérieures aux caractéristiques israéliennes, notamment au fameux dôme de Kerch. C'est la même chose en Corée du Nord. La Corée du Nord, malgré les discours américains, a la bombe atomique et les missiles pour même frapper le territoire américain. Et enfin, les Russes sont en train de démontrer en Ukraine qu'avec leurs nouveaux missiles qui ne savent pas intercepter les missiles donc Sarmat, mais également avec les armes hypersoniques, ils ont un avantage technologique. La capacité de frapper les Occidentaux, que ce soit l'OTAN, les États-Unis ou Israël, elle est détenue aujourd'hui par les forces anti-occidentales.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Michel. Monsieur Dortiguier, alors le secrétaire général du Hezbollah libanais, lui, a affirmé que la stratégie des ennemis, de l'entité sioniste et de ses alliés, de l'oubli, de la désespérance et de l'épuisement avait échoué face aux combattants de la résistance. Il paraît que, en dépit de toutes les tentatives ces dernières années, voire ces dernières décennies, de reléguer au second plan la question palestinienne, la cause palestinienne a alors refait aujourd'hui surface avec force au devant de la scène internationale. Ceci étant dit, alors si on revient au discours du leader de la révolution islamique, qu'on assiste à une nouvelle équation justement dans le présent et surtout l'avenir de la Palestine, et que justement l'avenir sera marqué par la poursuite de la résistance de la jeunesse palestinienne. Oui. À quoi il faudrait s'attendre justement dans cette logique?
Justement, vous faites, je m'excuse de vous juger ainsi, mais vous dites très bien l'essentiel du discours de M. Nasrallah est que, justement de dire que la question palestinienne n'est plus du passé, mais est effectivement une question d'avenir. Dans cet avenir-là, il faudra donc que les dirigeants arabes, ceux qui ont l'autorité, disons, tiennent compte de cette question palestinienne. Ils en tiennent compte comme d'un facteur intérieur à chacune de leurs nations. Voyez. Et ceci est très important. Cela a toujours été en puissance, si je puis dire. Mais là, maintenant, on est passé de la puissance, si je puis dire, au présent, de la puissance à l'acte, comme on dit en philosophie. Et disons que ce n'est pas une question de mots, c'est une question de conscience, de mûrissement. Ceci vient justement de la constance de la répression israélienne, de la cruauté, bien sûr, et surtout de l'indifférence des presses, on dit occidentale, mondiale, disons, qui est endormie, si je puis dire, ou surveillée par les agents de l'entité sioniste à l'extérieur. Parce que vous savez, les profs des sionistes, ce n'est pas d'être en Israël, mais la plupart d'entre eux sont à l'extérieur, voyez-vous, parlent de leur pays, mais n'y résident pas. C'est là, d'ailleurs, là, encore un paradoxe de cette situation-là. Je crois que M. Nasrallah a dit... non pas dénoncer, mais à démontrer l'existence d'une réalité dont ne pourront pas faire l'économie justement les dirigeants arabes, quels qu'ils soient, dirigeants de partis, chefs à la tête de l'État, etc. La politique de compromission, en effet, qui est celle d'Oslo, etc., qui a échoué pratiquement. Là, elle a échoué aussi théoriquement. C'est-à-dire que je crois que le peuple n'était pas... n'avait pas besoin d'être convaincu, comme on dit l'homme de la rue. Mais ce sont les élites, à mon avis, qui ont été touchées, qui doivent être touchées par ce discours de M. Nasrallah. Je crois que c'est une montée de la conscience nationale dans les pays arabes, dans les pays musulmans, dans les pays chrétiens, c'est-à-dire dans tous les pays qui, naturellement, formaient autrefois le grand empire ottoman. Voyez-vous, et je crois qu'on est, disons, non pas retourné, mais que l'on revient justement aux bases du désordre actuel, c'est l'intervention des Occidentaux, justement, et de leurs alliés, disons, dans ces grands conflits du XXe siècle, la Première, la Seconde Guerre mondiale, et n'oublions pas que l'histoire, le drame palestinien, est une conséquence des deux guerres mondiales.
Merci encore, Monsieur le professeur d'Ortiguier. Monsieur Michel, vous avez une longue expérience concernant la question palestinienne. Alors, M. d'Ortiguier l'a évoqué à juste titre d'ailleurs, que la question palestinienne est une question d'avenir. Alors, la question principale qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui aura le dernier mot pour justement résoudre, régler cette question, ce problème une fois pour toutes? La voie diplomatique ou la résistance, même la résistance armée, ce qui est d'ailleurs... unanimement partagé par les dirigeants politiques, mais aussi par, en effet, la nation palestinienne de tous horizons. Monsieur Michel.
La diplomatie internationale, elle est devant un échec global, comme le démontre encore la question ukrainienne. On n'assure pas la paix et les Nations Unies sont une arène où se déploient les Occidentaux pour leur projet impérialiste. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui a été neutralisé par Poutine. Donc moi, je ne crois pas à une solution diplomatique, surtout que chaque fois que les Américains et les Israéliens ont attiré les Palestiniens, notamment depuis Camp David, à des solutions diplomatiques. Ils ont été roulés à plate couture et c'est là que s'est mis au point le processus occidental caractérisé par les fameux accords d'Abraham qui étaient le lent étouffement de la résistance palestinienne et la colonisation de Gaza et de la Cisjordanie, colonie par colonie. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, le professeur Gauthier a raison, la Palestine, c'est un résultat du traité de Versailles et de la conférence de Yalta. Mais aujourd'hui, justement, la Russie, à travers le dossier ukrainien, elle est en train de remettre en cause l'ordre de Yalta. Il y a eu une première révolution géopolitique de Poutine en mars 2014, lorsqu'il a fait le retour de la Crimée à la Fédération de Russie. Jusque-là, l'ordre de Yalta, c'était qu'on ne touchait pas aux frontières définies par les Nations Unies. Ça, c'était terminé. Aujourd'hui, Poutine mène la deuxième révolution géopolitique, c'est-à-dire qu'il est en train de remettre en cause le nouvel ordre mondial défini par George Bush à la fin de la guerre froide. C'est à cela qu'il faut constater. Au milieu de tout cela, et Téhéran, en s'alliant à Moscou, et à Pékin, l'a parfaitement compris, et Pékin, en soutenant Moscou, ils ont parfaitement compris qu'ils remettent en cause la domination occidentale. Le véritable but de guerre de Poutine, c'est pas de régler la question du Donbass, ou même de neutraliser l'Ukraine. C'est bien entendu de mettre un terme au nouvel ordre mondial. C'est pas moi seulement qui le dis, c'est par exemple les analyses de l'hebdomadaire américain Newsweek qui ont fait un numéro consacré à la guerre en Ukraine au tout début de celle-ci. C'était le portrait de Poutine en couverture avec le titre « Poutine Endgame ». Ils expliquaient que le but de guerre de Poutine, c'était d'en finir avec l'ordre mondial, géopolitique, militaire et économique. Au milieu de tout cela, évidemment, la question palestinienne va jouer son va-tout. Et dans cette configuration, il n'y a pas de solution du tout pour les négociations diplomatiques qui sont une rapide internationale depuis 30 ans.
Merci encore, M. Michel. Une toute dernière question à M. Dortiguier. M. Dortiguier, bien sûr, dans la configuration actuelle, dans le contexte actuel des évolutions régionales et internationales, alors, il paraît que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine a aussi son impact sur la donne moyen-orientale, y compris la question palestinienne, et notamment si on remonte justement au discours du leader de la révolution islamique sur la question des droits de l'homme. Il paraît que les pays occidentaux, ces prétendus défenseurs des droits de l'homme, font de grands discours en ce qui concerne justement l'Ukraine, mais concernant la Palestine, il s'agit malheureusement d'un mutisme total. Donc là, ce paradoxe en matière des droits de l'homme, mais dans un sens plus général, alors, quel lien établissez-vous justement entre ces deux affaires, M. Dortiguier?
Eh bien, l'affaire d'Ukraine est une manière, disons, de fausser l'opinion publique, de distraire l'opinion publique internationale des véritables problèmes, c'est-à-dire de créer une situation de guerre, de menace de guerre, voyez, alors que en parlant des affrontements de deux grandes puissances, de ce que les fanatiques disent par un Israël, l'histoire de Gog et de Magog, vous savez, de deux grandes puissances qui s'affrontent et qui permettraient, par leur affrontement, justement, de consolider la venue de ce qu'ils appellent leur Messie à Jérusalem. Voilà exactement, je répondrai à la manière des fanatiques, mais ce sont eux, disons, qui, à mon avis, décrivent très très bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils espèrent. Il y a des forces qui ont créé l'État d'Israël, qui essaient de noyer le poisson, si je puis dire, en favorisant justement cet affrontement entre les puissances sous prétexte de maintenir l'ordre international. Je suis tout à fait d'accord avec M. Michel, notre ami Michel, quand il parle de la fin de Yalta, c'est tout à fait juste. Et malheureusement, nous devons craindre, non pas du tout que le peuple palestinien baisse d'esprit de résistance, loin de là, mais nous devons craindre justement ces bruits de guerre, voyez-vous, qui seront, et cette guerre même qui s'annonce, en Europe et qui serait une manière justement de préserver les droits de ces criminels qui maintiennent ce qu'on appelle nous le désordre international. Voilà, c'est plutôt cela et je dois dire qu'il faut une grande vigilance de la part des dirigeants et aussi de la jeunesse, qu'elle se laisse pas entraîner par de fausses apparences, qu'elle se méfie de la propagande, voyez-vous. Je crois que l'Ukraine cache un crime international, voyez-vous. Et malheureusement, c'est le peuple ukrainien, le peuple russe qui en font les frais, et demain, le peuple européen, dans son ensemble. Je crains que ces criminels qui ont fait justement la situation en Orient ne poussent justement à un affrontement pour pouvoir dissimuler leurs crimes.
Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
La poésie persane avant et après la révolution islamique. La poésie persane classique, consacrée au thème de l'ordre général et de l'ordre moral, s'inscrivait dans un cadre rhétorique préconçu et strictement codifié. Non datée, elle était indubitablement intemporelle, adaptable à tous les temps. Elle ne relatait pas la véritable vie, mais la présentait métamorphosée sous l'effet de l'esprit. Il y a près d'un siècle, suite au mouvement de modernisation en Iran, les relations commerciales et culturelles avec les pays de l'Ouest se développèrent et la société iranienne subit quelques changements. La poésie elle-même ne resta pas figée, puisqu'elle évolua en s'évidant des concepts stéréotypés pour devenir le miroir de la vie réelle. Les précurseurs de l'évolution de la poésie en Iran ne pouvaient qu'appartenir au cercle des militants politiques de l'époque. Ils maîtrisaient au moins une langue étrangère telle que le français, le russe ou le turc. Abolghasem Lahouti composa pour la première fois un poème en vers libre en 1907, 2 ans après l'installation de la monarchie constitutionnelle. C'était un militaire insurgé qui, au cours d'un coup d'État avorté, avait fui l'Iran pour se réfugier en ex-Union soviétique où il mourut peu de temps après. Le véritable législateur du vers libre était Tari Rafat. Il avait étudié en Turquie ottomane et comptait parmi les proches du leader du Parti démocratique de l'Azerbaïdjan. Suite à l'échec de ce mouvement et à l'assassinat de son leader, il se suicida en 1920. Mais le père incontesté de la poésie moderne persane fut Nima Yushij, 1897-1959. Nima termina ses études secondaires à l'école Alliance de Téhéran, où il se familiarisa avec la culture et la littérature occidentale. Son père était communiste et fut porté disparu en ex-Union soviétique. Il va sans dire que le sort douloureux de ce dernier affecta profondément Nima, qui ne s'engagea jamais dans la vie politique. Durant 40 ans, il peaufina son style et composa des poèmes dont l'essence devint la pierre angulaire de la poésie moderne persane. Son premier poème fut publié 2 ans après le suicide de Tari Rafat. On ignore s'ils se connaissaient. Le fait est que le parcours de son frère contribua à enrichir les poèmes de Nima en symboles, métaphores et allégories. Le symbolisme et l'allégorisme de Nima atteignirent leur apogée à l'époque où Reza Shah, une fois au pouvoir, ordonna la fermeture des revues des mouvements et partis d'opposition. Or, pendant plus de 10 longues années, Nima n'écrivit aucun poème en vers libre. Il se consacra uniquement à la lecture et rédigea de nombreux racidés, masnavi et ratés. Mais il sortit finalement de son isolement et publia son premier recueil en vers libre le jour où un groupe d'hommes de lettres lança la publication d'une revue littéraire artistique. Sous le règne de Reza Shah, 1925-1941, ses poèmes étaient profondément symboliques et philosophiques, à tel point qu'il est devenu incompréhensible pour certains lecteurs. Nima se montrait plus que jamais méfiant envers la politique et persista dans cette attitude jusqu'à la fin de sa vie. Le symbolisme devint ainsi la principale caractéristique de sa poésie. Le symbole, ce nouveau moyen d'expression, devint d'ailleurs la clé de voûte de l'évolution de la poésie en Iran. La poésie moderne persane naquit avec le symbolisme. Les 16 années de règne de Reza Shah se traduisirent par une forte régression de la création poétique. À part quelques poèmes de Nima et de courts et médiocres recueils appartenant à deux autres poètes qui plagièrent les poètes français et américains, rien ne fut publié. Reza Shah abdiqua en 1941 en pleine Seconde Guerre mondiale sous la pression de ses alliés et fut exilé à l'île Maurice. À la suite de quoi son fils aîné, Mohammad Reza Shah, hérita du trône. Bien qu'il fût trop jeune pour parvenir à surmonter les problèmes inextricables du pays, il se forgea une image de politicien libéral en critiquant implicitement certaines des initiatives despotiques de son père. Le paysage politique iranien prit donc de nouvelles couleurs. De nouveaux partis et de nombreuses revues virent le jour et le vers libre refit surface dans le milieu élitaire. Mais les poèmes qui paraissaient se démarquaient du style de Nima et se situaient dans un entre-deux, entre la poésie classique et moderne, sous l'influence de Feridun Tavalloli, lui-même disciple de Nima. La poésie dite néo-traditionnelle, inspirée du romantisme et du symbolisme français, domina largement les revues intellectuelles des années 30 et 40. Les néo-traditionalistes n'ont attribué à ceux qui excellaient dans ce registre poétique, qualifié et qualifie toujours la période classique du périmée. Et pourtant, ils récusaient et récusent toujours le non-respect des règles traditionnelles et le symbolisme excessif de Nima. Ils pensaient que le recours excessif au symbolisme à la façon de Nima Yushij vidait le poème de tout son sens. En effet, Nima avait brisé le moule des règles de la poésie classique. Il était persuadé que n'importe quel thème était susceptible de trouver sa forme adéquate au moment de l'écriture. Selon lui, la forme poétique devait s'émanciper des contraintes formelles. Mais les néo-traditionalistes estimaient que le maître et le rythme de la poésie persane était tellement riche et varié qu'il était inutile, voire inopportun, d'instaurer une nouvelle métrique. Pour Nima, la poésie représentait une sorte de témoignage de l'existence. Les moindres détails de la vie ne lui échappaient pas. Les mots fourmillaient sous sa plume, tirés de champs lexicaux très divers, donnant naissance à d'abondantes images. Il ne discriminait aucune catégorie de mots, qu'ils soient laids ou beaux. C'est seulement la place du mot et sa relation avec les autres composants de la phrase qui définissaient son esthétique. Les néo-traditionnalistes, quant à eux, étaient fortement attachés à l'aspect esthétique du lexique. À leurs yeux, un poème devait regorger de mots musicaux, harmonieux, gracieux, simples et affectifs pour l'expression de sentiments subtils. Ceci étant, la poésie classique continua à dominer la création durant ces années-là. La prochaine fois, nous poursuivrons cette étude sur la poésie persane. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.